Comme nous pouvons être reconnaissants pour tous ces moments d'enseignement, d'instruction, d'introduction dans la parole de Dieu. L'essentiel est et reste que les hommes expérimentent la grâce de Dieu. Et comment entendront-ils, à moins que cela ne leur soit dit? Comment croiront-ils, à moins que cela ne leur soit proclamé? Et ainsi, nous avons la foi que Dieu va aider et en sauver encore quelques-uns. Je viens de lire ici quelques versets de l'évangile de Luc au chapitre 3 et au chapitre 4. Nous avons déjà entendu quelques versets du chapitre 8. Et il était montré que le Seigneur Jésus a ouvert aux siens la compréhension, les yeux, les oreilles et tout pour qu'ils comprennent ce qu'il leur disait. Et je crois que nous pouvons le revendiquer pour nous. Dieu nous a fait grâce. Nous n'avons pas seulement entendu des paraboles, mais nous avons entendu la somme des paraboles. Nous avons entendu la totalité de la chose que Dieu a placée dans les paraboles. Nous l'avons entendu par grâce. Et à cela, nous devons reconnaître que nous avons trouvé grâce parmi plusieurs. Ici, dans Luc chapitre 3, Luc chapitre 3 parle de la prière du Seigneur. Il est dit ici à partir du verset 21, Luc chapitre 3, verset 21, « Or, comme tout le peuple se faisait baptiser, et que Jésus aussi avait été baptisé et priait, le ciel s'ouvrit. » Pour moi, il s'agissait particulièrement des paroles qui disent qu'il priait et que le ciel s'ouvrit. Une prière qui ouvre le ciel. Une prière par laquelle le ciel s'ouvre. Nous pouvons parfois dire si vite que le ciel est ouvert. Et le Seigneur aurait peut-être pu dire la même chose, car quelque chose était descendu. Alors, il devait avoir une ouverture quelque part. Mais ici, quand il a prié, il est dit, le ciel s'ouvrit. Lorsque nous nous réunissions pour prier et que nous présentons nos requêtes au Seigneur et qu'il nous ait dit que le peuple s'est laissé baptiser, qu'il a reçu et accepté ce qui lui a été proclamé par le prophète Jean, qu'ils ont marché dans la lumière, dans la mesure de lumière qui était possible pour eux, et l'heure était donnée en ce temps. Et lorsque le Seigneur a prié, le ciel s'ouvrit. Aujourd'hui, nous voulons prier jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Aujourd'hui, nous voulons élever nos voix vers Dieu. Aujourd'hui, nous devons être sous un ciel ouvert. Et il est dit ici au verset 22, Luc chapitre 3, et le Saint-Esprit, sous une forme corporelle, descendit sur lui comme une colombe et une voix se fit entendre du ciel. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon bon plaisir. Ce n'était pas seulement que le ciel s'est ouvert, que quelque chose est aussi descendu du ciel, mais quelque chose s'est produit, quelque chose était visible. On pouvait entendre quelque chose. Oui, on pouvait le voir, on pouvait le toucher, on pouvait l'expérimenter. Si nous pouvons prier jusqu'à ce que le ciel s'ouvre, alors quelque chose doit descendre du ciel. Alors nous devons entendre, voir, expérimenter quelque chose. Nous ne pouvons pas simplement dire que le ciel est ouvert et il ne s'est rien passé ensuite. Ce n'est pas possible. Si nous croyons que nos prières s'élèvent vers le ciel et atteignent le trône de Dieu, alors cela signifie que la réponse vient du ciel aussi certainement que nos prières ont atteint le trône de Dieu. Nous savons que dans l'Ancien Testament, dans le prophète Ésaïe, il y a la parole où il est dit « Ma parole » ou « La parole qui sort de moi, dit Dieu, pas la parole qui sort d'un homme, mais la parole qui sort de moi, ne retournera pas à vide à moi, mais accomplira ce pourquoi elle a été envoyée. » Selon Ésaïe 55, verset 10. C'est en effet un circuit, une circulation. La parole part du trône, atteint nos cœurs, manifeste la foi en nous, et nos prières s'élèvent avec cette parole comme une réponse de notre part à Dieu, que sa parole a trouvé une résonance en nous, qu'elle a été reçue, et Dieu, de son côté, répond quand le ciel est ouvert. Et si nous considérons ces trois événements, 1. Jésus a prié, 2. Le ciel s'est ouvert, 3. L'Esprit est descendu et la voix de Dieu s'est fait entendre. Ce sont les conséquences d'une prière qui arrive au ciel, qui atteint le trône de Dieu. Et nous devons à nouveau nous attendre à ce que Dieu écoute les prières. Nous devons à nouveau nous attendre à ce que lorsque nous prions, le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit descend. Jésus n'était que le premier-né parmi plusieurs frères. Tout a commencé avec lui, mais tout ne s'est pas arrêté ou n'est pas fini avec lui. Tout ça a eu son commencement avec lui, mais pas sa fin. La fin de toute chose, nous l'expérimenterons avec lui par grâce. Lui, comme le premier-né parmi plusieurs frères. En tant que Dieu, il n'a pas eu besoin de prier. Mais en tant que fils de l'homme, il a prié et sa prière est montée au trône de Dieu. Le ciel s'est ouvert et déjà la réponse est venue, est descendue du ciel. Le Saint-Esprit est descendu sur lui pendant qu'il priait. Le Saint-Esprit est descendu sur celui qui a été baptisé et qui priait. Il a été dit à Jean, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui qui baptisera d'Esprit et de feu. » Selon Jean 1, verset 13. Comme nous l'avons déjà mentionné, selon Jean 1, verset 33. Pardon. Comme nous l'avons déjà mentionné, il est le premier-né parmi plusieurs frères. L'Esprit est descendu sur lui après qu'il a été baptisé et il a dit, « Car il nous appartient d'accomplir toute justice. » Et c'est ce qu'il a fait. La réponse est venue du ciel. Le Saint-Esprit est descendu et la voix a retenti. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon bon plaisir. » La promesse nous a été donnée. Répentez-vous et que chacun de vous se laisse baptiser dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et ainsi, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Selon Acte 2, verset 38. Jésus ne s'est pas seulement laissé baptiser et a continué son chemin, mais il a prié et le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu et la voix a retenti. Ça, c'est l'ordre divin aussi pour notre vie de foi. Si nous avons reçu la parole, consacré nos vies à Dieu, si nous nous sommes laissés baptiser, de sorte que nous ne continuions pas seulement notre chemin, mais que nous prions. Et le mieux serait de ne même pas quitter l'endroit où l'on a été baptisé avant d'avoir prié jusqu'à ce que le ciel puisse s'ouvrir comme il est écrit ici. Il aurait certainement été dans l'esprit des gens, des personnes, que voici un besoin où ceci doit être fait. Ici, le maître est appelé et ainsi de suite. Mais il est resté là, lui-même, et a prié, et le ciel s'est ouvert. Peu importe ce que nous avons à faire, si nous nous sommes laissés baptiser, alors nous devrions prier et faire confiance à Dieu, et cela dans la foi, dans la pleine assurance que Dieu répondra encore aujourd'hui. Et pendant que nous prions, le ciel s'ouvre. Et lorsque le ciel s'ouvre, alors, pas seulement pour que cela se produise sans effet. Lorsque le ciel s'ouvre, alors il y aura toujours une réponse de Dieu. Le ciel ne peut pas s'ouvrir sans qu'il n'y ait une réponse de Dieu. Et nous voyons, ici vint la réponse. Le Saint-Esprit est descendu. Que ce soir, Dieu nous fasse grâce d'avoir cet exemple devant les yeux, de prier au lieu où nous avons si souvent expérimenté Dieu. Prier de manière à ce que le ciel puisse s'ouvrir. Prier de manière à ce que l'Esprit Saint puisse descendre. Priez de manière à ce que la voix de Dieu se fasse entendre. Pas seulement prier et s'en aller, mais prier jusqu'à ce qu'une réponse divine puisse être donnée. Nous lisons ensuite ici une parole qui est devenue pour moi une bénédiction. Nous avons tant parlé de la grâce. Et c'est bien la grâce qui nous permet d'écouter la parole de Dieu. C'est la grâce qui nous permet de croire. C'est la grâce que nos cœurs ont été ouverts. C'est la grâce que nous puissions comprendre sa parole dans la mesure qui nous a été donnée. Dans Luc chapitre 4, au verset 19, nous lisons au sujet du Seigneur lui-même. Peut-être devrions-nous déjà lire à partir du verset 18. Ici, il est dit, Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Nous venons de lire au chapitre 3 qu'il a prié, que le ciel s'est ouvert et que le Saint-Esprit est descendu. Nous l'avons lu. Maintenant, il rend témoignage et dit, Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour que je porte le joyeux message aux pauvres, m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, aux opprimés la liberté. Verset 19, pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Ensuite, après avoir enroulé le livre et l'avoir rendu au serviteur, il s'assit et tous les yeux dans la synagogue étaient tournés vers lui avec attention. Verset 21. Alors il commença à leur parler en disant, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie. » Verset 22, « Et tous lui rendaient témoignage et étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. » Jusqu'ici peut-être. Nous voyons ici le contexte. Ici le mot « grâce » se trouve dans deux relations. D'une part, une année de grâce du Seigneur. Et cette année de grâce du Seigneur n'a pas seulement 365 jours. Elle s'étend de la première venue du Seigneur jusqu'à sa deuxième venue. L'ensemble du temps de la grâce est l'année favorable du Seigneur, l'année du salut, l'année du jubilé, l'année de la libération, l'année du retour à la propriété, l'année de la restauration, l'année de la grâce en toutes choses, une année de grâce. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'une année de grâce était proclamée, il se passait quelque chose parmi le peuple. Il y avait de la joie parmi eux. L'esclave était libre. L'homme endetté était libéré de sa dette. Il pouvait retourner à la maison. Celui qui avait mis ses biens en gage pouvait revenir et dire, « Me voici. Cela m'appartient. Ceci m'appartient à partir d'aujourd'hui. » L'année de grâce était une année du salut, une année de jubilé. Une année où l'on s'adressait particulièrement aux personnes qui avaient été affectées pendant un certain temps. Des personnes qui étaient dans le besoin, qui étaient endettées, qui, pour une raison quelconque et d'une certaine manière, n'arrivaient pas à s'en sortir avec leur vie. Alors, l'année de salut leur a apporté la grâce, leur a apporté le joyeux message. Ils pouvaient tous être toujours en train de compter les jours. Et puis, cela s'est rapproché de plus en plus, jusqu'à ce que 7 fois 7 était plein et que la 50e année était arrivée. Alors, il se passait quelque chose de parmi tout le peuple. Les uns étaient à l'est, les autres à l'ouest. Chacun retournait dans sa patrie, dans sa propriété, dans ses biens. On leur avait proclamé la grâce parce que le temps de la tribulation était terminé pour eux. Ils retournaient. C'était ainsi en Israël. Le Seigneur doit avoir eu cette pensée devant les yeux lorsqu'il a parlé de l'année de grâce. Pas seulement un jour de grâce, mais c'était une année de grâce. Mais les gens, les personnes pouvaient se mettre en marche. Ils pouvaient retourner chez eux. Et il en est de même aujourd'hui. Pas une année de grâce des hommes. Il est dit ici pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. C'est une chose merveilleuse. Nous ne proclamons pas une année de grâce de Moïse ou de Paul, mais une année de grâce du Seigneur. Un retour, une délivrance, une restauration, une bénédiction pour ceux qui sont abattus par la vie, pour ceux qui ne s'en sortent pas, pour ceux qui sont endettés. Une année de grâce du Seigneur. Pour cela, le Saint-Esprit était le bienvenu et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour que je porte le joyeux message aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance. Voyez-vous de quoi il s'agit? Des personnes qui étaient endettées, qui étaient esclaves. La liberté devait leur être apportée. Nous étions de telles personnes. Nous avions besoin de l'année de grâce du Seigneur. Pas une année de grâce d'un homme. Il pourrait se tromper. Il pourrait proclamer la grâce aujourd'hui et demain le jugement. Mais le Seigneur proclame une année de grâce, une année de libération, de visitation, de retour, de restauration, de victoire sur toute la ligne. Il devrait en être ainsi pour les personnes qui consacrent leur vie au Seigneur, qui viendraient à croire à lui. Et je pense que lorsque l'Esprit de Dieu vient sur nous individuellement ou sur toute l'assemblée, c'est pour proclamer une année de grâce du Seigneur pour annoncer quelque chose qui apporte l'aide aux gens. Chacun savait que lorsque l'année du salut était venue et que cette année annonce était faite, alors personne ne devait plus rien à l'autre. Plus rien du tout. Chacun pouvait sortir librement. L'un aurait pu dire à l'autre, écoute, la chose n'est pas encore simple. Travaille jusqu'à la fin. Tu t'es endetté. Alors l'esclave aurait pu dire, tu peux me regarder de derrière, car mon heure est venue. Je m'en vais. Mon heure a sonné. C'est l'année de grâce du Seigneur. Ne me retiens pas. Ma journée, mon heure, mon année, ce que j'ai attendu est arrivé. Laisse-moi m'en aller en paix. Je veux remercier mon Dieu et prendre possession de ce qui m'appartient. Louange et remerciement à notre Dieu. Notre Sauveur pouvait dire, l'Esprit du Seigneur repose sur moi pour porter le joyeux message aux pauvres. Proclamer la liberté aux captifs. Proclamer l'année de grâce du Seigneur. Ce n'était pas un homme qui l'a proclamé. Lui-même, qui a apporté l'année de grâce. Car la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, verset 17. Et celui qui a incarné la grâce, qu'il a vraiment apporté en personne, avait pleinement le droit de proclamer cette année de grâce du Seigneur. Car il avait apporté la grâce. Il n'a pas seulement apporté la liberté. Il n'a pas seulement proclamé la liberté, mais il l'a apporté. On peut proclamer quelque chose sans l'apporter. Alors, ce ne sont que des mots. On l'a annoncé déjà assez. Puis, vint celui en qui tous ceux qui avaient été destinés à la foi avaient mis leur espoir. Lui, de la tribu d'Isaïe. Cet homme en qui les peuples avaient mis leur espoir et que les royaumes attendaient comme les prophètes l'ont exprimé. Maintenant, il était là. Il n'a pas seulement proclamé, mais il a apporté. Il avait en personne, en sa personne, tout ce qui avait été annoncé. Grâce, salut, guérison, délivrance, bénédiction, rétablissement, vie, vie éternelle. Il avait tout dans sa personne. Alors, pas seulement une proclamation, mais la chose elle-même se tenait maintenant devant l'humanité. Le Sauveur, pas l'annonce du Sauveur, mais le Sauveur lui-même. Pas seulement l'espoir d'une vie éternelle, mais la vie éternelle elle-même. Pas seulement le discours du pardon, mais celui qui pardonne se tenait devant eux. Tout était réglé pour eux et ils pouvaient dire, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Que Dieu puisse nous faire grâce. Si le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit repose sur nous en tant qu'individu ou en tant qu'Église, alors nous devons considérer le même mandat divin ou la même mission divine et retransmettre ce message divin avec les mêmes paroles. Proclamer une année de grâce du Seigneur. Si c'était mon année de grâce, alors oui, qu'il me soit fait grâce. Mais c'est une année de grâce du Seigneur, pas celle d'un homme. Un homme peut peut-être être miséricordieux aujourd'hui et ne plus l'être demain. Mais Dieu est tout autre. Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Proclamez une année de grâce du Seigneur. Et nous lisons ensuite le verset 22. de Luc chapitre 4, deuxième partie. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est arrivée à son accomplissement, est accomplie. Verset 22, « Et tous furent d'accord avec lui. » Oui, nous sommes d'accord avec lui ce soir. Nous sommes d'accord avec lui et nous disons, « Seigneur, nous acceptons ton offre de grâce, la proclamation, la réalisation de l'année de grâce du Seigneur et nous t'en remercions. » Des personnes qui approuvent le Seigneur reçoivent ce qu'il leur donne. Une approbation intérieure de notre cœur est nécessaire pour recevoir ce que le Seigneur vient d'annoncer. Ces personnes n'ont pas seulement entendu quelque chose pour eux. En tant que juifs, c'était une chose très claire, ce que signifie une année de grâce. Personne n'avait besoin de plus d'informations à ce sujet. Ils savaient ce que signifiait pour eux une année de grâce. Liberté, rentrer à la maison, prendre possession de ses biens. Ils savaient ce que cela impliquait pour eux. Et manifestement, ceux qui ont entendu ces paroles dans la présence de Jésus ont compris intérieurement de quoi il s'agissait. Et il est dit ici, tous étaient d'accord avec lui. C'est ce que nous aimerons faire ce soir. Nous aimerons être d'accord avec lui. Nous aimerons dire, Seigneur, c'est ainsi. C'est ainsi que cela est juste. Une année de grâce du Seigneur. Pas une année de colère. Le prophète Ésaïe a également parlé du jugement. C'est une année de grâce du Seigneur pour proclamer le jour de la vengeance. Mais le temps du jugement n'était pas encore là, mais seulement l'heure de grâce. Et c'est pourquoi il a laissé le jugement pour un temps ultérieur, à savoir quand le temps de la grâce sera passé. Et alors le jugement viendra. Grâce sur ceux qui approuvent le Seigneur et jugement sur ceux qui l'ont rejeté, qui n'ont pas entendu sa voix, qui n'ont pas cru à sa parole. Sur ceux viendra alors le jugement. Verset 21. Tous étaient d'accord avec lui et était étonné des paroles de grâce. Même des paroles de grâce. On lit son autorité. Les gens étaient touchés par l'autorité avec laquelle il parlait. Ici, il est question de la grâce. Ils étaient étonnés, émerveillés par les paroles de grâce. On n'en est pas resté aux paroles. C'était un acte de grâce. Nous avons été graciés par Jésus-Christ, notre Seigneur, sur la croix du calvaire à Golgotha. Si les paroles de la grâce étaient déjà si merveilleuses pour ceux qui écoutaient, que doit être la grâce elle-même pour ceux qui entendent le Seigneur, qui sont d'accord avec lui et qui font l'expérience de la grâce de Dieu? Sommes-nous de telles personnes ce soir qui l'approuvent intérieurement, qui disent simplement « Oui, Seigneur, c'est une chose, c'est ainsi que tu l'as fait avec nous. Et nous nous réjouissons. » Qu'est-ce que les gens ont pu faire d'eux-mêmes? Ils devaient attendre jusqu'à ce que l'année de grâce arrive. Ils pouvaient faire n'importe quoi, mais le calendrier ne serait pas allé plus vite pour autant, ou l'horloge non plus. Mais lorsque cette année était arrivée, il y a eu une grande joie parmi tout le peuple. Pas dans tout le monde entier, mais seulement parmi le peuple d'Israël, car la loi s'appliquait à eux et la grâce aussi s'appliquait à eux. Il en est de même pour ceux qui ont la parole de Dieu au milieu d'eux. Les mêmes personnes, le même peuple qui a reçu la loi, a reçu aussi la grâce et la justification. Et ensuite, le salut s'est étendu vers toutes les nations. Verset 18, Luc 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi ou repose sur moi parce qu'il m'a oint. Jésus-Christ, notre Seigneur, n'a pas seulement été baptisé, il a prié. Le ciel s'est ouvert. Une réponse d'en haut comme confirmation de ce qui s'est passé ici sur terre. Amen. Un lien entre celui qui se tenait ici et le trône de Dieu. Un lien. Le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu. La voix s'est fait entendre. Quelque chose s'était passé. Le ciel est ouvert. Jésus a dit en ces temps, désormais, vous verrez de plus grandes choses encore. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre, selon Jean 1, verset 51. Qu'est-ce que c'était? Par sa grâce, le ciel est ouvert. Pas tes prières, pas mes prières, pas toi, pas moi, mais quelqu'un d'autre a ouvert le ciel. Quelqu'un d'autre a créé l'accès. Amen. Quelqu'un d'autre a révélé la grâce dans nos vies. Nous étions tous perdus. Nous étions tous sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Mais il est venu parmi les siens. Et à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir ou de pouvoir devenir enfant de Dieu qui croit en son nom. Pas seulement prier. Prier de manière à ce que le ciel s'ouvre. Pas seulement que le ciel s'ouvre, mais que le Saint-Esprit descende. Pas seulement que le Saint-Esprit descende, mais que la voix de Dieu se fasse entendre là où le ciel est ouvert, là où les prières sont exaucées, là où le Saint-Esprit descend. Il doit se passer quelque chose. Il n'y a pas d'autre moyen. Dieu n'est pas une idée morte. Dieu est un Dieu vivant. Dans l'Ancien Testament, il était même écrit quelque part à propos du cœur de Dieu. Probablement dans Genèse 6, que Dieu était profondément attristé dans son cœur et qu'il se repentait d'avoir créé les hommes. Dieu n'est pas un vent. Dieu est un être. Dieu est une personne. Dieu est là. Nous le savons. Dieu est là. Il a des yeux, il a des oreilles, il a des mains. Dieu est là. Et nous devons entrer en relation personnelle avec ce Dieu. Quand Dieu s'est manifesté sur la terre, ce n'était pas un nuage qui flottait. C'était un homme, c'était une personne, c'était quelqu'un à qui on pouvait parler, quelqu'un qui pouvait répondre, quelqu'un qui pouvait aider, quelqu'un qui pouvait pardonner, qui pouvait guérir. Tout était en lui et Dieu était révélé dans la chair. Et si nous pouvons voir tous cela ainsi et le recevoir en nous avec foi et approuver le Seigneur et dire, « Ô Seigneur, après ton baptême, tu as prié. » C'est en tant qu'homme qu'il a prié, pas en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. Mais l'Écriture dit qu'il est devenu en toutes choses semblable à nous, afin d'être un souverain sacrificateur fidèle, afin de pouvoir intercéder pour nous. Il a été semblable à un homme. Il a prié, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu. La réponse de Dieu était là. Et déjà, il sortait et pouvait dire, « L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a oint. » Qu'avait-il devant les yeux, dans le cœur, dans l'esprit, en parole et en acte? Rien d'autre que de libérer, que d'aider, que de sauver, que de guérir, que de pardonner, que de faire du bien partout où il allait. Les gens l'écoutaient volontiers. Ils étaient submergés. Et il est dit ici, et tous étaient d'accord avec lui et s'étonnaient, s'émerveillaient des paroles de grâce. Verset 22 de Luc 4. Quel privilège d'être ainsi dans la présence du Sauveur. Et je veux dire que même s'il n'est pas visible physiquement, il est cependant présent. Il nous dit ce soir, je suis le même, moi qui vous parle. Les mêmes paroles que j'ai dites autrefois, je vous les dis aujourd'hui. Tout dépend de notre disposition. si nous pouvons être d'accord avec lui. Le mot tous et tous fut d'accord avec lui. C'était l'unanimité. Et là où se trouve l'unanimité, où on est unis et en accord, là Dieu peut bénir. Je vous le dis, si quelqu'un est assis dans l'assemblée et pense en lui-même, « Ah, il n'a pas dit ceci correctement maintenant, et ce n'était pas tout à fait correct, il voudrait mieux qu'il laisse la chaise à quelqu'un d'autre. » Nous devons revenir à l'unité de l'esprit, retrouver une approbation intérieure à la parole de Dieu. Tout dépend de notre disposition. Nous pouvons être assis dans le service divin sous la proclamation de la parole de Dieu, et tout cela n'est pas une bénédiction parce que nous ne sommes pas intérieurement d'accord, disposés pour dire oui au Seigneur, pour recevoir la parole comme il le voudrait. Je ne sais pas si les gens de cette époque avaient tout compris, mais je sais une chose, ce que le Seigneur dit ici est vrai pour toujours. L'Esprit était venu, la réponse de Dieu avait été donnée. Il reposait sur lui, il pouvait retransmettre la réponse. Et la réponse était proclamer une année de grâce du Seigneur. Et tous ceux qui ont expérimenté cette année de grâce du Seigneur, qui l'ont reconnue, n'ont pas seulement entendu l'annonce, ils sont entrés en possession du salut, entrés dans ce que Dieu leur a promis depuis les temps anciens et qui devait se manifester en Jésus-Christ notre Seigneur. Et tous étaient d'accord avec lui et s'étonnaient ou s'émerveillaient des paroles de grâce. Nous l'avons entendu dans la parole d'introduction. Le semeur est le Fils de l'homme. Il est sorti et il a semé la parole de Dieu. Bienheureux sommes-nous, nous tous qui affrontons les soucis de la vie, les contrariétés, tout ce qui se met en travers de notre chemin, les épines, tout ce qui est autour de nous. Si nous pouvions affronter tout cela et trouver un chemin avec Dieu, que rien ne puisse nous arrêter, ni à droite, ni à gauche, et que nous puissions avoir une approbation intérieure, un oui total à Dieu, pour qu'il puisse nous bénir, pour qu'il puisse nous utiliser, pour que non seulement l'annonce d'une année de grâce, mais la révélation de l'année de grâce puisse se manifester. Jésus n'est pas allé et a dit aux malades, écoutez, je vous annonce la guérison. Mais il leur a apporté la guérison. Il n'a pas dit aux pécheurs, écoutez, si vous êtes sages, alors viendra le pardon. Mais il était le pardon. Il a apporté le pardon. Il n'a pas fait miroiter le salut. Il était le salut. Il était la lumière. Il était tout en tous. Et aussi certain que l'Esprit de Dieu reposait sur lui, aussi certain, le même Esprit Saint vint sur tous ceux qui entendirent son discours. Et le Saint-Esprit produisit l'approbation en ceux qui avaient entendu la parole prononcée sous l'onction du Saint-Esprit. Amen. Et là, la même chose doit se produire à nouveau. Le même Saint-Esprit qui était sur Moïse était sur les 70 et vint sur le peuple. Le même Esprit qui était sur le Christ est venu sur l'Église. Il y a un seul Saint-Esprit. Et si nous avons la grâce de reconnaître ce que le Seigneur a fait, quelle grâce il nous a accordé, alors nous devrions remercier Dieu. Et pour une fois, ne pas seulement essayer, mais vraiment prier. Élever les yeux vers le ciel, dans l'attente que le ciel s'ouvre et que la réponse de Dieu descende sur nous. Que le Saint-Esprit descende. Qu'il ne reste pas seulement au-dessus de nous, mais qu'il puisse reposer sur nous. Lorsque nous lisons un passage, il est dit que l'Esprit demeura au-dessus de lui. C'était peut-être visible, mais ici il est dit, l'Esprit du Seigneur Dieu repose sur moi. S'il vient sur nous, alors il peut aussi directement reposer sur nous, se poser comme il est dit dans le récit de la Pentecôte. Et il se posa sur chacun d'eux. Mais nous avons entendu cela assez souvent. Le Saint-Esprit est si délicat, particulièrement dans l'un des sermons de Frère Branham, où il dit, « Oh, même s'il y a en nous une nature autre que la nature de l'agneau, alors le Saint-Esprit symbolisé par une colombe ne pourra pas se poser sur nous. L'Esprit ne le supportera pas. Mais si nous avons en nous la nature, l'être de Jésus, la nature de l'agneau, et que le Saint-Esprit descend, que doit-il se passer? Alors, il doit se passer la même chose. Je m'y accroche. C'était le début, pas la fin. C'était le modèle. Il nous a été montré ce qui doit arriver et ce qui arrivera. Et parfois, et partout où il y avait les gens qui avaient été en possession du Saint-Esprit, et cela aussi, nous l'avons souvent dit, il ne suffit pas que nous ayons le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit nous possède. Il faut qu'il repose et reste sur nous. Et alors, cela sera visible en nous. Les gens seront introduits dans ce que Dieu a préparé pour eux. Les gens deviendront libres. Ils recevront le pardon, la guérison et tout le reste. Si nous pouvons approuver intérieurement et dire, « Oui, Seigneur, ce soir, je prends cette parole de ta bouche et je t'en remercie. » Et que vous me croyez ou non, je n'ai absolument rien su de tout ce que nous allions considérer ce soir. Rien du tout. Autant que vous, autant que je n'en savais rien. Je suis reconnaissant à Dieu pour sa précieuse et sainte parole. C'est en tremblant que nous venons ici et nous souhaitons que tous les autres parlent. Et j'ai dit cela sincèrement, car je ne savais pas quoi dire. Mais je suis reconnaissant à Dieu pour sa précieuse et sainte parole. Puissions-nous aujourd'hui avoir trouvé grâce devant lui et proclamer une année de grâce du Seigneur et remercier le Seigneur de nous avoir fait grâce. Que nous puissions approuver intérieurement. Et je crois que nous avons parfois était étonné, émerveillé par les paroles de grâce. Combien de fois le Seigneur nous a-t-il parlé? Il n'est pas venu ici pour nous flageller ou nous infliger quelques tribulations. Cela a eu lieu assez longtemps. Il est venu pour aider, pour guérir, pour libérer, pour ramener à l'état initial. Oh, si nous pouvions mesurer encore plus la grâce de Dieu, si nous pouvions comprendre encore plus profondément ce que ça signifie de trouver grâce devant Dieu, d'être gracié par Dieu, connaître le chemin de Dieu, comprendre sa parole, voir ses mystères s'accomplir ou ses promesses se réaliser. Tout cela, c'est la grâce. Jésus-Christ, notre Seigneur, a pu dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi ou repose sur moi parce qu'il m'a oint. » Et ensuite, il en vient aux pauvres pour proclamer le joyeux message aux pauvres. Oui, et c'est l'Évangile. Le joyeux message est l'Évangile. L'Évangile de Jésus-Christ. À cela, on peut dire un Alléluia, Alléluia. L'Évangile de Jésus-Christ, l'acquittement, le rachat, tout est réglé. Personne ne doit plus rien à personne. La dette est payée. Le péché est pardonné. Glorieux Golgotha, glorieux Golgotha. Nous pouvons le chanter à la gloire de Jésus. Il est ma gloire, lui et lui seul. Lorsque nous voyons Golgotha, le lieu de notre libération, le lieu de notre rédemption, sang précieux devant nous, alors nous savons ce qui s'est passé. Pas seulement des paroles, mais un fait divin comme résultat de toutes ces paroles. Et ce fait divin est là. L'ennemi aurait pu interpréter les paroles, mais pas le fait divin. Il ne peut rien interpréter sur le fait. Le fait est là. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort à la croix de Golgotha. Et aussi certain qu'il est mort, aussi certain, nous sommes passés de la mort à la vie. Ah, si nous pouvions ce soir prier jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Pouvez-vous croire que le ciel s'ouvre quand les croyants prient? Il ne peut en être autrement. Nous voulons tous nous mettre sous la couverture du sang de l'agneau. Il n'y a qu'un seul moyen qui nous permette d'accéder au trône de la grâce, c'est le sang de l'agneau. Il n'y a rien d'autre. Cela ne nous servira à rien et ne nous aidera pas. Mais le sang de l'agneau, c'est écrit dans la lettre aux Hébreux, c'est par la route nouvelle, la route vivante, qui nous a été donnée au travers du voile, c'est-à-dire au travers de sa chair, selon Hébreux 10, verset 19-20. C'est une route nouvelle, une route vivante. Puisse Dieu bénir ses paroles de grâce en nous. Puissions-nous approuver intérieurement et dire, « Ô Seigneur, nous avons répondu à ton appel. » En ce temps-là, beaucoup se sont laissés baptiser. C'est ce que nous avons lu. Mais lorsque celui dont parlait la promesse est arrivé, la chose ne s'était pas arrêtée au baptême. Beaucoup ont pu se faire baptiser, mais quand celui qui avait été promis est venu, c'était autre chose. Lorsque celui qui avait été désigné avant la fondation du monde pour être l'agneau de Dieu, quand celui-là est venu, alors ce n'était pas terminé après le baptême. Il s'est tu, il a prié, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est venu. Je vous le dis, que beaucoup puissent se faire baptiser. Mais si ceux qui ont été prédestinés avant la fondation du monde à hériter du salut et de la béatitude sont baptisés, quand ceux-là sont baptisés, alors il y aura pas seulement le baptême dans l'eau, il y aura la prière et le ciel devra s'ouvrir et alors le Saint-Esprit devra descendre et alors la voix de Dieu se fait entendre et alors nous pouvons aller de l'avant parce que l'Esprit du Seigneur repose sur nous. De même qu'il était le premier-né, nous sommes les premiers-nés, nés du même Esprit. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été révélé, mais lorsque cela sera révélé, nous serons semblables à lui. 1 Jean 3, verset 2. Quelle grâce indescriptible. Oh, si nous pouvions approuver intérieurement et dire, Seigneur, beaucoup ont été baptisés et ils sont tous partis, et ils sont tous partis, et ils sont tous partis. C'est ainsi que nous l'avons lu. Beaucoup ont été baptisés. Or, il arriva que lorsque le peuple se fit baptiser, pas seulement quelques-uns, tout le peuple se fit baptiser, mais lorsque celui à qui était destiné la promesse se fit baptiser, les choses étaient différentes. Il s'arrêta. Il n'alla pas plus loin. Il s'arrêta et priait. Le ciel s'ouvrit. La réponse de Dieu était là. Le Saint-Esprit descendit. Frères et sœurs, que beaucoup puissent se baptiser. Peut-être tout le peuple et des assemblées entières. Mais ils continuent tous leur route. Mais il y a une église, c'est l'église des premiers-nés. L'église de ceux qui sont inscrits dans les cieux. L'église des justes accomplis. Cette église ne s'en ira pas facilement. Nous restons dans la présence de Dieu. Nous prions et nous attendons que le ciel s'ouvre et que le Saint-Esprit descende et que nous recevions la réponse divine. Alors nous avons une réponse avec laquelle nous pouvons monter et descendre pour le reste de notre vie. Peu importe ce qui arrive. Alors nous pouvons chanter et dire, comme il me conduit, alors je veux le suivre. Tout le peuple s'est fait baptiser. Mais quand est arrivé celui dont les prophètes avaient parlé, celui qui a qui apporta le salut. Quelque chose s'est passé. Et ceux à qui il a apporté le salut feront la même expérience. Pas seulement celui qui apporte le salut, mais ceux qui le reçoivent feront la même expérience. Il n'y a pas d'autre alternative. Nous pouvons lire dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21. Celui qui nous a oint, c'est Jésus, et ainsi de suite, et nous a affermis avec vous. Nous pouvons lire beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement Jésus-Christ qui a été oint, les premiers-nés, l'Église du Dieu vivant a été oint du même, avec le même Saint-Esprit. Oh, que Dieu nous fasse grâce ce soir, que nous puissions être d'accord avec lui, l'approuver intérieurement et dire, oh Seigneur, c'est vrai, tout le peuple s'est laissé baptiser et ils sont tous partis. Mais un est resté. Il a levé les yeux, le ciel s'est ouvert, l'Esprit est descendu et la réponse de Dieu était là. Puissions-nous faire partie de ce groupe qui s'arrête dans la présence de Dieu, qui prie dans la foi, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre et que le Saint-Esprit puisse descendre. Amen.